À moins que vous ne soyez SDF, ce qui me peinerait énormément, ou gitan.
Avec la carte de vos morts.
Vous avez tous une adresse. Et cette adresse, elle régit quand même un peu votre vie. L'enfer administratif n'est pas le même si t'habites aux 2 rues des Lilas que si tu vis au 42 bis voie communale du docteur Louis-François Fiché.
Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases.
Mais le nom de votre rue, qu'on appelle d'ailleurs un odonyme, si vous voulez passer pour des petits savants auprès de votre entourage, ne sert pas seulement à la paperasse administrative ou à la livraison de vos colis Amazon. Non, elle est aussi un sujet de militantisme politique. Et comme la plupart des combats coûteux, sans grand intérêt et très chronophages, celui-ci est largement investi par la gauche. Donc, votre adresse est-elle facho ? Décryptons. Mercredi dernier est sorti le nouveau numéro de Valeurs Actuelles sur les municipales, le Péril Rouge, qui est, par ailleurs, toujours disponible en kiosque pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Dedans, vous retrouverez l'étude originale sur les odonymes français de l'historien Éric Picard et du data analyst Thibaut Tournier, qui m'a fortement inspiré pour l'écriture de cette vidéo. Et d'ailleurs, si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et tutti quanti.
On y va, c'est parti.
L'odonymie, donc l'étude des odonymes, nous apprend 2-3 trucs intéressants sur l'histoire de France. Déjà, qu'elle était rurale. Les noms de rues les plus donnés contiennent les mots arbre, bois, pré, étang et source. Car bon, à la base, donner un nom à une rue, ça servait surtout à se repérer dans l'espace. Ensuite, vous n'allez jamais le croire, la France était chrétienne.
Non, c'est pas vrai !
Plus de 20 000 rues en France contiennent les mots église, cure et presbytère. 16 000 occurrences pour les mots croix ou calvaire. Et pour ce qui est des noms de saints, il y en a plus de 50 000. Un nombre qui aurait été encore plus important si les sans-culottes n'étaient pas passés par là. En 1793, l'abbé Grégoire, figure de la Révolution française qui sera par la suite député de l'Assemblée nationale, décide de mettre en place un système national de dénomination des rues. L'odonymie devient un outil d'éducation civique et morale. Première étape de son plan, expurger toute référence religieuse ou féodale. Les rues qui portent des noms de saints, ça dégage.
Tu dégages !
La rue Saint-Honoré à Paris devient la rue Honorée. À Dourdan, la rue Saint-Pierre devient la rue des Sans-Culottes. Et les odonymes faisant référence de près ou de loin à l'église, ça dégage aussi. À Étampes, la rue de l'Enfer devient la rue de l'Oubli. Et la rue de la Chasse, pas la chasse pampan, hein, la chasse dans le sens reliquaire, devient la rue de la Refonte, évoquant directement la descente des cloches et la destruction des reliques. Voilà, la bonne époque. On supprime aussi tous les noms faisant référence à la royauté et aux privilèges de l'aristocratie. À Paris, la place royale, dédiée à Henri IV, devient la place des Vosges, en honneur au premier département français à s'être fait racketter à avoir versé la totalité des impôts exigés par la Première République. Et dans certains districts, Jean-Jacques Couturier, homme politique de gauche, ordonne de modifier les prénoms royaux. Les Antoinettes sont changées en Sophie. Les Louis sont changés en Sincère et les Rois en Libre. Car, comme on l'a dit précédemment, le but des révolutionnaires, c'est d'éduquer moralement et civiquement les gueux. Pardon, les citoyens. Le nom des rues et des places doit leur rappeler leurs droits et leurs devoirs, notamment à travers les grandes vertus. Donc par exemple, la bienveillance, l'hospitalité, la générosité, la vérité, ou encore la piété filiale, dont vous connaissez tous la définition. L'abbé Grégoire pensait même que donner le nom d'une vertu à une rue aurait un véritable impact psychologique sur la personne qui s'y rendait. Il suggérait aux parents de conduire leurs enfants coupables dans les rues portant le nom de la vertu opposée à leur faute pour faire naître en eux des remords. Par exemple, si tu décides, disons, de guillotiner le quart de la population, tu vas rue de la Paix et tu te sens beaucoup plus magnanime par la suite. Cette éducation civique, elle passe aussi à travers la panthéonisation de l'espace public. Avant la Révolution, les rues faisaient assez peu référence à des personnages historiques, mis à part les saints et quelques figures royales. Mais durant la Première République, les rues sont renommées d'après les grands hommes de la Révolution et du grand philosophique des Lumières. On va aussi commémorer les dates et les lieux phares de la Révolution pour aviver le patriotisme. Le 10 août, le jeu de paume, la Constitution, le bonnet rouge, la pique. Bon, après, outre le lavage de cerveau idéologique, l'abbé Grégoire a quand même eu quelques bonnes idées. Supprimer les odonymes en doublons dans une même commune, numéroter les maisons, avoir une organisation thématique autour des grandes places. Seul truc que je trouve personnellement un peu dommage, c'est qu'il a supprimé les noms de rues dits ridicules. Petit florilège de ces odonymes disparus. La rue du Tire-Boudin, de la Trousse-Vache, du Pète-au-Diable, du Trot qui dure, du Chat qui pêche ou encore de la Mouche qui pète.
La mouche qui pète.
Je précise, au cas où, pour les gens très premier degré, que la rue de la Mouche qui pète n'a jamais exister. Tout ça pour dire que depuis plus de deux siècles, le nom des rues est un sujet idéologique et politique, tout comme la récupération de l'espace public et culturel. Sujet idéologique dont la droite s'empare très peu, puisque elle est plus... comment formuler ça ? Elle est moins sujette aux crises de panique quand elle tombe face à une plaque micro-agressive. En 1920, un nouveau parti est créé, le PCF, le Parti communiste français. Son électorat au PCF, il se situe dans ce qu'on appelle à l'époque les banlieues noires, des communes fortement polluées et habitées par une population ouvrière très précaire, attirée à Paris avec l'industrialisation du 19e siècle, mais chassée de la capitale à cause du prix des loyers. Ces banlieues noires, très vite, elles deviennent des banlieues rouges. Après les élections municipales de 1935, le PCF remporte 26 mairies dans le seul département de la Seine. Et même si aujourd'hui le parti a perdu pas mal de ses communes, il a laissé un héritage certain, notamment au niveau des odonymes. Prenons une ancienne de ces banlieues rouges. Au hasard, Bagnolet en Seine-Saint-Denis. Si vous habitez à Bagnolet, peut-être votre adresse est-elle située rue Karl Marx. Ou mieux, rue Lénine.
On se croirait c'est les bolcheviques ici.
Peut-être habitez-vous rue Ambroise Croizat, ministre communiste à la Libération, créateur de la Sécu et stalinien convaincu qui a été arrêté au début de la Seconde Guerre mondiale, car il voyait pas trop le problème de l'alliance entre son chouchou Staline et Adolf Hitler. On peut aussi citer la rue Camélina. Zéphirin Camélina a d'abord été communard, puis député d'extrême gauche avant d'être un membre fondateur du PCF, lui aussi légèrement aveuglé sur l'aspect un tantinet autoritaire de l'URSS. Toujours à Bagnolet, on a l'école Henri Barbus, communiste mort à Moscou en 1935. Il obtient le prix Goncourt durant la Première Guerre mondiale pour son roman Le Feu. Pas de prix en revanche pour son autre bouquin, Staline, un monde nouveau, vu à travers un homme, extrait. Si Staline a foi dans la masse, la réciproque est vraie. C'est un véritable culte que la Russie nouvelle a pour Staline, mais un culte fait de confiance et jaillit tout entier d'en bas. L'homme dont la silhouette sur les affiches rouges se détache encastrée dans celle de Karl Marx et de Lénine est celui qui s'intéresse à tout et à tous, qui a fait ce qui est et qui fera ce qui sera. Il a sauvé, il sauvera. Ça se débat. Même s'il existe encore une rue Staline aujourd'hui à Essômes-sur-Marne. Bon, et on finit sur les lycées. Le lycée Eugène Hénaff, dirigeant communiste et cadre de la CGT, qu'il gérait avec une discipline quasi militaire. Il a été un peu critiqué, comme pas mal d'autres haut placés au sein de la CGT d'ailleurs, pour le manque de démocratie interne. Et toujours cette fâcheuse tendance à purger ceux qui ne suivaient pas la ligne du parti. On a aussi le lycée Jean Jaurès, le fondateur du journal L'Humanité, qui est, déjà, en tant que tel, un crime contre l'humanité.
J'adore rire.
Bon, aujourd'hui, le combat communiste, il est un peu dead, comme dirait Sibeth Ndiaye. Le nouveau mouvement porté par la gauche, c'est le décolonialisme, qu'on va pas revoir en détail car on en a déjà parlé dans cette vidéo. En France, plusieurs collectifs et associations recensent et militent contre les odonymes liés à l'esclavage et au colonialisme. C'est le cas par exemple de Mémoire et Partage qui avait remporté une bataille juridique contre la mairie de Biarritz concernant le quartier et la rue La Négresse, renommée depuis en rue de l'Allégresse. Ces assauts, leur but principal, c'est de recenser les plaques jugées problématiques et d'en alerter le gouvernement. Certaines veulent simplement ajouter des plaques explicatives afin de prévenir les Français que là, ils entrent dans la rue David Gradis et que David Gradis, c'était un connard d'esclavagiste. Et d'autres veulent carrément les débaptiser et les remplacer par d'autres noms. À Bordeaux, la rue David Gradis, justement, est donc devenue la rue du Chevalier de Saint-Georges. Une icône de la cause noire, fils d'une esclave et d'un riche planteur, qui a commandé le premier régiment de citoyens de couleur pendant la Révolution française. Un intime de Marie-Antoinette, qui a vécu grâce aux rentes de son père, rentes qui provenaient directement de l'exploitation esclavagiste en Guadeloupe. Oups. Ces icônes de couleur, Macron veut les rendre visibles dans l'espace public. En 2019, lors du 75e anniversaire du débarquement en Provence, il dit
« La France a une part d'Afrique en elle. Les noms, les visages, les vies de ces héros d'Afrique doivent faire partie de nos vies de citoyens libres. Parce que sans eux, nous ne le serions pas. C'est pourquoi je lance aujourd'hui un appel au maire de France pour qu'il fasse vivre, par le nom de nos rues et de nos places, la mémoire de ces hommes qui rendent fière toute l'Afrique. »
Peu après, il lance une commission présidée par Pascal Blanchard. Cette commission, en 2021, elle envoie une liste de 318 noms à tous les maires de France pour les guider dans leur choix de nouveaux odonymes. Parmi eux, Frantz Fanon. Je vous renvoie encore une fois à cette vidéo. Mais en gros, pour lui, la décolonisation ne pouvait se faire que par la violence et la mort du colon. Et il trouvait aussi que la violence désintoxifiait et débarrassait le colonisé de son complexe d'infériorité. On trouve aussi l'émir Abdelkader, présenté comme un héros national algérien. Alors moi, je veux bien qu'on ait des rues à son nom, hein. Mais dans ce cas, est-ce qu'on n'ajouterait pas une petite plaque explicative ? Voilà, sous son nom, pour prévenir qu'il possédait des esclaves noirs.
Mais je pose la question, j'ouvre le débat.
Et dernier petit nom, Jean-Marie Tchibaou, militant des coloniales kanak, qui prônait un retour rigoureux à la coutume kanak. Coutume dans laquelle la femme a un statut socialement inférieur, sans droit à la parole publique ou à la propriété foncière, et soumise à une autorité patriarcale stricte. D'ailleurs, haut de coup dans les dents des féministes, hein, cette liste de noms, car elle ne contient malheureusement que 22% de noms féminins. Pourtant, c'est une autre cause chère aux révolutionnaires des eudonymes. En 2024, l'UNESCO publie un guide, dénomination des lieux publics vers un paysage urbain inclusif sur le plan du genre. En effet, il faut le savoir, les rues en Europe sont très sexistes. Plus de 90% des eudonymes portant le nom d'une personnalité sont masculins. En France, c'est pire. En 2014, seulement 6% des eudonymes des personnalités portaient le nom d'une femme. Les grandes métropoles françaises ont donc décidé d'agir. Car ça a été démontré maintes et maintes fois, modifier le nom des rues a un réel impact sur les inégalités hommes-femmes. La municipalité de Paris a donc mis en place une carte interactive où sont recensés tous les espaces portant un nom de femme. Combien ça a coûté ? Aucune idée. Sûrement trop. Et même des villes moins grandes, comme Florac en Gironde, se sont lancées dans ce combat pour la parité. Sur 10 nouveaux espaces à baptiser, 9 l'ont été avec le nom d'un personnage féminin. Sauf que pour certains, ce n'est toujours pas assez. Car, comme le pointe Laura Slimani, adjointe au maire à Rouen, trop souvent, les noms féminins sont relégués à des quartiers en périphérie de la ville ou à des impasses. Le collectif à côté de Nantes l'a d'ailleurs démontré. Est-ce que les Nantaises devraient avoir d'autres priorités que le nom de leur rue ? Sûrement. Mais ce n'est pas la question. Des collectifs féministes se sont donc lancés une mission symbolique, recouvrir ou compléter les plaques de rue existantes par de nouveaux noms féminins. Le collectif Némésis devrait prendre exemple et se concentrer sur les combats qui comptent vraiment.
Restez mobilisés aussi, vous, vos camarades.
Des guéguerres entre mairies de droite et mairies de gauche, il y en a toujours eu. Certaines, plus tendancieuse que d'autres. Et le nom des rues, c'est l'une des armes utilisées par les politiques. Par exemple, en 98, Georges Fraîche, maire socialiste de Montpellier, perd contre Jacques Blanc à l'élection de la présidence du conseil régional du Languedoc-Roussillon. Et si Jacques Blanc a gagné, c'est parce qu'il a accepté le soutien du Front National. Georges Fraîche décide alors de rebaptiser rue de Vichy, une voie proche du conseil régional. Très mature. À droite, les mairies sont un peu moins vicieuses, même si quelques maires, une fois arrivés à la tête de leur ville, se sont donné comme mission de débolcheviser les eudonymes.
Il faut désoviétiser ou débolcheviser un certain nombre de rues de Sartrouville.
Monsieur le maire voit rouge, certaines plaques de rue lui donnent de l'urticaire.
Une manifestation d'intolérance totale. Je pense que parmi les noms de rues qu'il veut changer, il y a des gens qui étaient incontestables. Et incontesté d'ailleurs.
On ne va tout de même pas conserver Marx et Lénine, alors que le marxisme-léninisme est actuellement piétiné dans la plupart des pays de l'Est.
Mais globalement, les municipalités de droite, les eudonymes, elles s'en foutent un peu. Et quand il y a une nouvelle rue à nommer, elles préfèrent ne pas se mouiller et lui donner le nom d'une fleur.
Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi ?
Non, même pas, je m'en fous.
Même pas ?
Et ça, ça pose une question. La droite a-t-elle honte de ses figures historiques ? Quand on regarde les 10 dernières années, les figures de droite ayant donné leur nom à un eudonyme, on peut les compter sur les doigts de la main. Les noms de Charles Pasqua, grand homme politique de droite, et Élite Saint-Marc, officier français qui a préféré passer 5 ans en prison plutôt que de trahir les harkis lors du putsch d'Alger, ont été donnés respectivement 3 fois à une voix. C'est peu. Le général Lousteau Lacaux, héros de la Grande Guerre et résistant pendant la Seconde, une fois. Alors je veux bien que chacun de ces 3 hommes ait une part d'ombre, enfin... Quand on voit que depuis 2015, Simone de Beauvoir a donné son nom à 141 nouvelles voix, on est à même de se demander qui juge de qui est problématique ou pas. Parce que bon, aujourd'hui tout le monde crache sur Jack Lang. Donc arrêtons l'hypocrisie 2 minutes. Je comprends qu'on veuille débaptiser les plaques portant le nom d'agresseurs sexuels, comme l'abbé Pierre, mais dans ce cas, bah, on le fait pour tout le monde. Et ça prendrait beaucoup... beaucoup de temps. Parce qu'il n'y a pas une seule figure historique entièrement clean qui cocherait toutes les cases de la bonne morale contemporaine. À droite comme à gauche.